Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait quand même pas mal de temps. La dernière fois que je suis intervenu sur un sujet bien particulier et c'était sur de ne pas se conformer au siècle présent. Donc, j'avais pris ce texte d'introduction dans Romains 12 et on va le reprendre. Donc, je vous invite donc à prendre ce texte dans Romains, dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, au verset 1er. Alors, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'étais resté sur ce point-là, et j'avais cité les applications qui sont à partir du verset 3. Et ce soir, en fait, j'aimerais prendre une des applications qui a été dite dernièrement, d'ailleurs, en plus. Et cette application se trouve au verset 12. Et c'est seulement la deuxième partie du verset 12. Mais on peut lire tout le verset en entier. Ça fait toujours du bien. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous souvenez-vous, il y a quelque temps, le pasteur aussi avait prêché sur « prier seul ne suffit pas ». Et un des points qu'il avait abordé, c'était « prier avec persévérance ». Et ce soir, j'aimerais vous parler j'aimerais nous encourager à persévérer dans la prière. Je pense que c'est une notion qui est peut-être simple intellectuellement à savoir, mais je pense que c'est bien aussi de répéter les choses. Et pour ce texte, et pour appuyer cette idée, ce principe spirituel, j'aimerais qu'on lise notre deuxième texte de base, l'introduction, dans Luc, au chapitre 18. À partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Dans ce texte, la conclusion, le principe moral se trouve déjà au premier verset. Jésus dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je pourrais juste, en fait, m'arrêter là et dire c'est fini parce que je pense que vous avez tous compris qu'en fait, il faut juste vraiment persévérer, prier et c'est fini, en fait. Mais Jésus, en fait, il s'est même pas arrêté là. Il énonce ce principe spirituel, la conclusion, mais il étaye, en fait, avec une parabole. Et Jésus parle en parabole. Aujourd'hui, la parabole, ça parle pas à grand monde. Aujourd'hui, on dirait plutôt une illustration, un exemple. Parce que, à l'époque, les paraboles que Jésus utilisait servaient à illustrer afin que les gens qui écoutaient son enseignement pouvaient, s'identifier, ressentir la réalité des choses dans leur cœur, les vérités qu'on peut énoncer puissent vraiment imprégner leur âme. Et c'est pour ça qu'il parle, en fait, du coup, en parabole. Il pourrait juste dire, voilà, priez, ne vous relâchez pas, et c'est déjà très spirituel, et Dieu vous aime. Amen. Mais non, il continue, il veut vraiment faire toucher l'importance de la persévérance dans la prière. Même l'une des clés est pourquoi faut prier avec persévérance. D'ailleurs, dans d'autres passages de la parole de Dieu, il y a plusieurs exhortations à la prière, à persévérer dans la prière. Je prendrai par exemple l'épître aux Éphésiens. Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Colossiens 4, 2. persévérer dans la prière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Et la notion de persévérance dans la prière, de persévérer dans la prière est très présente dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais arrêtons-nous sur cette parabole. Aujourd'hui, on va juste un peu prendre notre loupe et rentrer un peu dans l'histoire et décrire un petit peu. On a deux personnes, une veuve et un juge inique. Aujourd'hui, par exemple, le vocabulaire inique, ça parle pas grand-chose, c'est pas le vocabulaire de tous les jours. Je vais pas dire aujourd'hui je vais être inique, ni au boulot, ni chez moi. Et dans le dictionnaire, on le traduirait par le juge inique, c'est très injuste. C'est pas genre injuste, c'est très injuste. C'est la notion de justice, c'est lui. C'est personne d'autre, c'est lui. Et si je dois poser les personnages, c'est une veuve. C'est-à-dire, à l'époque, quand même, c'était pas une situation ou un statut social très, très envié. On perd son mari, on a peut-être aussi des enfants en bas âge. Et pour la survie, c'est très, très difficile. Aujourd'hui, ça peut-être parle pas beaucoup parce que on n'est pas à l'époque. Mais à l'époque, ça parlait aux gens. Les gens où on se battait pour vivre, là où c'était très difficile, là où on cravachait, là où le syndicat n'existait pas. C'est soit je travaille pour amener de l'argent et de quoi nourrir ma famille, soit on fait la grève de la faim très forcée. Mais aujourd'hui, les grèves, à l'époque, les grèves, ça n'existait pas. On était obligés. Et elle était là. Et Jésus nous montre vraiment une femme avec une position, un statut social très, très modeste. Et à l'opposé, un juge inique. C'est-à-dire, en fait, il y a un grand, en anglais, on dit un gap, en français, on dit un grand écart de statut social. C'est-à-dire, si je dois vous parler aujourd'hui, pour vous qui êtes étudiants, c'est comme si vous allez réclamer justice au ministre de l'Éducation. J'ai pas dit au rectorat, j'ai dit au ministre de l'Éducation. Et pour vous qui travaillez, pour nous qui travaillons, on réclamait justice non pas à notre patron, mais à notre PDG, notre supérieur hiérarchique le plus haut. Vous imaginez genre la différence qu'il y a? À quel point c'est inimaginable? Imaginez-vous, genre quand vous êtes à Insté et que vous grattez 0,5 points à notre mentor, ben c'est pas lui qu'il faut le demander. C'est à Insté, où on sait même pas d'ailleurs où ils sont géographiquement. Vous imaginez, pour gratter le 0,5 point, tous les efforts. Et Jésus met l'accent sur cette veuve en disant que pendant longtemps, elle allait voir le juge inique. Au verset 4, pendant longtemps, il refusa. Ça, c'est le juge inique qui refuse, mais ça veut dire qu'en fait, elle a insisté. Et Jésus veut nous encourager aussi au travers de ça, de dire, peut-être que je suis de condition modeste. Peut-être que j'ai mes faiblesses. Peut-être que j'ai mes limitations. Peut-être que j'ai plein de blocages. Mais il dit, regardez-la. Elle, de condition sociale. Vous qui le saviez. Vous qui vivez avec elle. Vous savez ce que c'est qu'une veuve. Une personne de condition sociale, elle n'a pas regardé à son statut. Elle n'a pas regardé à qui elle était, ou au pouvoir qu'elle avait, ou à l'influence qu'elle pourrait avoir. Elle a regardé à l'objectif. Elle n'a pas dit, le juge, c'est un homme de pouvoir très fort, qui a une grande influence, qui pourrait même m'écraser. Elle a regardé à l'objectif. Elle ne considère pas les raisonnements humains auxquels on pourrait dire, statistiquement parlant, ou les pronostics, où on dit, ok, un joueur de foot contre 10 joueurs de foot, c'est le 10 joueurs de foot qui perd. Non, qui gagne, pardon. Ou en fait, statistiquement parlant, on a un David qui se trouve face à Goliath. Tout le monde regarde. Évidemment, on voit un petit qui est un petit blond, roux, avec un géant de 3 mètres à peu près. Pronostiquement parlant, statistiquement parlant, il est perdant, le petit David. Et elle était là, veuve, de condition modeste. Elle ne dit pas, ok, d'accord, je vais faire pitié. Non, elle arrive tous les jours. Je veux ma justice de ma partie adverse. s'il te plaît, je veux ma justice. Et pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps, c'est la persévérance. Je veux le but. Et la conclusion de Jésus, enfin, la suite, c'est pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, c'est le juge qui raisonne et qui dit, ok, bon, j'en ai marre parce que là, ça fait vraiment tous les jours. Je pensais qu'un mois, c'était déjà trop. 2 mois, un peu compliqué. Mais là, ça fait vraiment très, 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 très longtemps. Et tous les jours, elle vient avec persévérance. Ok, d'accord. Ma justice, c'est moi. Donc, je lui accorde justice. Non pas parce que du coup, elle le mérite. Non pas parce que du coup, elle aurait légitimement droit. Non. Parce qu'en fait, elle me casse la tête. Et Jésus dit, du coup, à partir de là, que du coup, quand bien même là, on a un homme inique, un homme très injuste, qui finit par accorder à une femme, qui semblerait-il, à première vue, aux yeux de tout le monde, pas grand-chose, pas de valeur aux yeux de la société. Mais la seule chose qu'il note et le caractère qu'il note et qu'il dit dans sa conclusion, dans son principe moral, c'est sa persévérance, sa force de caractère. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a perdu cette force de caractère qui fait qu'au premier échec, en fait, on abandonne. Alors peut-être, allez, ok, on a un petit peu de force de caractère, on va essayer une fois, deux fois, trois fois. Et on finit quand même par abandonner. Mais elle se pose pas des questions sur est-ce que j'ai de l'espoir? Est-ce que la probabilité, c'est 99% si je continue, si je persévère? Non, elle, c'est l'objectif. C'est droit devant. C'est je veux, j'y vais. Je veux, je persévère. C'est ma force de caractère. Il me reste plus grand-chose. Je veux, je veux, je veux. D'ailleurs, c'est un peu notre société, un peu aujourd'hui. C'est ceux qui en veulent, qui ont. Ceux qui percent, c'est ceux qui en veulent. Alors pourquoi? Au verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Peut-être que nous sommes là et on persévère pas, peut-être parce que on a oublié qui est Dieu. Et là, en comparaison, on a un juge très compliqué, inique, difficile, très injuste. Et en comparaison de tout ça, mais encore plus grand, notre Dieu le Père, n'est-il pas plein d'amour, plein de compassion, plein de grâce? Mais lorsque nous voyons ces échecs, avons-nous oublié, oublions-nous toutes ces choses que le Dieu de grâce est arrivé dans notre vie? Parce que nous ne voyons pas la percée, parce que nous ne voyons pas la victoire, parce que nous ne voyons pas la bénédiction arriver, alors nous nous relâchons. Avons-nous oublié qui est ce Dieu qui est venu nous donner la vie en prenant la forme d'un homme, mourir sur une croix, prier pour des malades, voyant la guérison? Avons-nous oublié à chaque moment où on était au plus bas, qu'à ce moment-là, au moment opportun, au temps fixé de Dieu, il nous a relevés? Avons-nous oublié ce Dieu qui connaît le nombre de cheveux que l'on a dans notre tête, sur notre tête? Et que c'est peut-être pour ça qu'on se décourage parfois face aux épreuves, face aux difficultés. Parce qu'on oublie ce Dieu. Parce qu'on est très programmé, très fixé, très focalisé sur notre problème qui est beaucoup plus gros. Alors on persévère pas. Et Dieu nous dit, persévérez. Persévérons. Non pas parce que je mérite. Non pas parce que j'ai une plus grande spiritualité. Non pas parce que je fais des œuvres. Non, parce que je connais mon Dieu. Je suis son enfant. Parce que j'ai accepté Christ dans ma vie. Il est ce Dieu d'amour et je ne veux pas l'oublier. Avons-nous oublié la grâce de Dieu? Que ce n'est pas par des œuvres ni par des mérites que nous recevons. Même pas le salut. Mais uniquement par grâce. Mais Seigneur, j'ai fait tant de choses pour toi. Pourquoi je n'ai pas eu ce travail? Mais Seigneur, j'ai fait tant de choses pour toi. pourquoi je n'ai pas eu la guérison, pourquoi je n'ai pas eu la percée que je mérite avec tout ce que j'ai fait pour toi. Le message de l'évangile, c'est le message de la grâce, celle qui dit que tu reçois non pas par mérite, mais par grâce. Non pas parce que tu as fait des choses, mais parce que le sang de l'agneau a coulé. C'est par amour pour toi, c'est par amour pour nous que nous recevons. Et c'est par la foi que nous nous en saisissons. Est-ce que vous êtes déjà posé la question sur la dernière phrase de Jésus quand, à la fin de cette parabole, il conclut, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dernière partie de la phrase. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les premières fois que j'ai lu ce verset qui conclut la parabole parle de persévérance et puis d'un coup, il conclut la parabole en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra-t-il sur la terre des hommes, trouvera-t-il la foi? C'est quoi le lien? Je comprends pas. C'est quoi le lien entre persévérer dans la prière et quand le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? Je me suis beaucoup cassé la tête, je vous avoue. Trouvera-t-il, je le reformulerai peut-être un peu comme ça, trouvera-t-il des gens dans l'attente de la main de Dieu? Trouvera-t-il des gens qui attendent le Sauveur? Comment attendent-ils dans la prière? Lorsque nous prions, ne sommes-nous pas en train de manifester notre foi? Lorsque vous allez chez le médecin, n'êtes-vous pas en train de manifester une sorte de confiance au médecin en disant « Je vais chez le médecin parce que j'ai confiance en son diagnostic. » Et lorsque nous prions, lorsque nous avançons vers lui, lorsque nous lui parlons, lorsque nous lui demandons les choses, ne sommes-nous pas des gens qui disent « Ben, je te parle, Seigneur, je te prie, Seigneur, parce que j'ai confiance en toi. » Et lorsque nous prions, c'est déjà notre première marque de foi. Parce que si on n'avait pas cette première marque de foi, je dirais, on ne prierait même pas, on ferait même pas attention. Mais aujourd'hui, sommes-nous de ces personnes qui sont là et qui disent, « Ok, je m'attends à toi, mais je m'attends à toi aussi dans la prière. Ma confiance en toi réside dans le fait que je te prie. Tu sais tout, mais tu me demandes de faire. Tu me demandes de te prier. Tu me demandes de déposer les fardeaux. Tu me demandes d'intercéder. » La confiance en Dieu, la confiance au Père, la manifestation de la foi de ceux qui cherchent Dieu dans la prière. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est le pasteur Kevin Miller qui en parlait quand il disait « Dieu me guide. Comment ?» Parler, écouter. Les deux, parler plus écouter égale prière. Les gens, nous qui croyons, nous cherchons Dieu dans la prière. Hébreux 11:6, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Et nous qui sommes venus ce soir-là, ne sommes-nous pas venus aussi chercher la face de Dieu? Ne sommes-nous pas venus chercher la face de Dieu ensemble, d'un même corps? Ne sommes-nous pas venus chercher la victoire, la percée, non seulement pour nos bien-aimés, mais aussi pour l'œuvre ici localement à Toulouse-Ouest? Ne sommes-nous pas aussi venus chercher Dieu, toutes les choses qu'il nous a promis ensemble? Jésus n'était pas limité. On croirait que sa grâce est limitée. On ne sait pas pourquoi on raisonne comme ça, mais des fois, on a l'impression que la grâce de Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin de chanter ce chant « Grâce illimitée, grâce infinie ». Parce qu'on croit que la grâce de Dieu, elle est limitée. Et à l'époque où Jésus était sur la terre des hommes, son enseignement était pour les Juifs, principalement. Il guérissait les malades, mais il guérissait aussi en fonction de la foi des gens. Et des gens qui n'étaient même pas juifs étaient guéris, étaient au bénéfice de sa grâce. Vous connaissez l'histoire? Le centenier romain, il n'est pas juif. sa connaissance hébraïque, sa connaissance de la Torah, inconnue, je ne sais pas. Mais il est venu parce qu'il a entendu parler de Jésus qui guérit. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Une Cananéenne était venue et elle a réclamé à Jésus, s'il te plaît. Oui, et Dieu a fait bon. Dieu regarde à la foi. Et souvent quand je prie, je prends cet exemple aussi, parce que ça me parle beaucoup. Ce sont les amis du paralytique qui passent par le toit de la maison pour amener le paralytique à Jésus. Et Jésus dit, il ne dit pas voyant la foi du paralytique, il dit voyant leur foi. Voyant leur foi aux amis qui ont amené le paralytique. Et ne sommes-nous pas de ces gens qui sont les amis de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans le combat, de ceux qui ont besoin de la percée, de ceux qui ont besoin du salut? Ne sommes-nous pas de ceux qui amènent? Mais au fait, lorsque nous prions et lorsque nous intercédons, ne sommes-nous pas en train d'accomplir les deux commandements de Dieu? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force et ton âme, ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne sommes-nous pas en train de dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, je t'aime et je sais que tu peux tout. Je te reconnais comme celui qui est grand, fort, puissant, plein de grâce, amour. Et c'est pour cela que, aussi, je t'apporte mon prochain. Et n'est-ce pas là aussi la volonté de Dieu qu'on accomplisse ces deux commandements? Alors d'autant plus il nous écoute. D'autant plus il est là et se réjouit de voir ses enfants qui se réunissent d'un même cœur, louant, intercédant pour voir les prodiges et les miracles. Colossiens 4, 12. Un des collaborateurs de Paul disait, un des collaborateurs de Paul faisait ceci, ça a été cité aussi dernièrement. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il ne cesse de combattre pour vous. Je retranscris pour mettre le bon mot, enfin, qui nous intéresse, je veux dire. Il persévérait dans la prière. Il combattait avec persévérance dans la prière. Si nous voulons voir des choses aussi, il nous faut persévérer. J'aimerais juste conclure, en fait, avec deux témoignages. Je ne sais pas si vous connaissez Douglas Scott. Qui connaît Douglas Scott? 1, 2, 3, 4. C'est un pasteur d'Angleterre qui est venu en France et il est le véhicule que Dieu a utilisé pour apporter le mouvement pentecôtiste en France, le réveil, le baptême du Saint-Esprit. Et souvent, lorsqu'on parle de l'histoire de France et du pentecôtisme en France, du renouveau, du réveil, on parle de Douglas Scott. Et en fait, on oublie derrière que quelqu'un avait prié. Qui connaît Hélène Biolay? 1, 2. Beaucoup moins connue, hein? Inconnue au bataillon. Hélène Biolay est une Italienne qui a, dans son très jeune âge, 18 ans, il me semble, a emménagé au Havre. Et elle avait vraiment à cœur le réveil spirituel. Et elle a vraiment vécu une vie de foi. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait des réunions de prière. Elle avait des amis avec qui elle priait. Et pendant 30 ans, 30 années, elle a prié avec persévérance pour le réveil en France. Et si aujourd'hui on a nos églises évangéliques, si aujourd'hui on peut parler du baptême du Saint-Esprit en France, c'est parce qu'une femme et ses amis ont prié pendant 30 ans. Si Douglas Scott est venu en France, si Dieu s'est servi d'un homme, c'est parce qu'en fait, une femme et ses amis, qui semblerait-il a priori, ne payent pas de mine. Ce ne sont pas des évangélistes. Ce ne sont pas des gens au grand renom. Ah, pardon, une grande renommée. Mais ce sont des gens qui ont cru et qui ont persévéré. 30 ans, c'est long. Hein? 30 ans, c'est long. Et nous ne voulons pas voir ces choses arriver ici à Toulouse-Ouest. Nous ne voulons pas voir des réveils, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des guérisons. Nous voulons pas voir nos familles au salut. Moi, je veux que ça arrive. Je veux que ça arrive. Le deuxième témoignage, c'est celui d'un évangéliste, Franck Alexandre. Il est parti dans un pays faire sa campagne d'évangélisation. Et juste à côté, il avait un autre évangéliste qui faisait aussi sa campagne d'évangélisation. Et il est parti le voir et il a posé cette question. Quel est ton secret? Quel est ton secret pour qu'il se passe des choses, pour qu'il y ait des conversions et tous les prodiges, tous les miracles de Jésus? Bon, il connaissait la réponse. Mais quand il raconte l'histoire, il dit qu'il connaissait la réponse, mais il voulait quand même le voir aussi pour le mettre en lumière. Et l'autre pasteur évangéliste, donc, est arrivé et il l'a amené dans une salle derrière, dans une salle un peu plus annexe. Et il a ouvert une bâche ou s'il a ouvert une porte. Et en fait, il avait là, en fait, un groupe d'intercesseurs qui priaient. Et qui priaient, Seigneur, que ta parole se confirme par des prodiges, par des miracles. Alors que l'évangéliste prêchait tout simplement l'évangile. Des intercesseurs étaient là et priaient en même temps, intercédaient pour que les prodiges et les miracles. C'est pas que le pasteur, c'est pas que le prédicateur, c'est pas que l'évangéliste qui fait quelque chose. C'est tous ensemble, nous sommes un corps. D'ailleurs, dans le livre des Actes, chapitre 2, au verset 42, il disait, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qui ils? Les disciples. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et enfin, il persévérait dans la prière. Jésus n'a-t-il pas dit que sa maison serait appelée une maison de prière? D'ailleurs, lorsque le pasteur l'annonce le dimanche matin, la réunion du soir, c'est quoi? Réunion de prière. Nous qui avons pris du temps, qui avons peut-être fatigué la journée, ou nous qui avons des soucis, nous avons pris ce temps à part. Alors rentabilisons-le. Prions. Intercédons. Laissons de côté nos limitations, notre timidité, notre, qu'en dira-t-on, notre, peut-être, manière de prier, peut-être, qu'on peut penser non mature ou, enfin, je sais pas trop parce que, mais allons avec la simplicité de notre cœur, regardant à l'œuvre et à l'objectif, les prodiges, les miracles, la gloire de Dieu, le salut des âmes de ceux qu'on aime. C'est peut-être simple dans nos cœurs. Le principe spirituel, persévérer dans la prière. Mais on a besoin de le réaliser jour après jour encore. Parce que l'ennemi est là pour nous dire et nous faire raisonner que ça sert à rien de persévérer. Alors que je vais repasser le micro au pasteur, prenons notre place. Prenons notre place. Et que ces réunions de prière du mardi soir ne soient pas juste que nous, mais toutes les chaises remplies. Et que ce lieu soit trop petit. Et qu'on ait un autre local encore plus grand, où on prierait encore beaucoup plus pour qu'il se passe quelque chose. Que le réveil vienne d'abord dans notre cœur. Que la persévérance vienne d'abord dans notre cœur. La persévérance dans la prière. Seigneur mon Dieu, on te demande pardon. Pardon premièrement parce que Seigneur c'est vrai, parce que nous pouvons nous décourager parfois. Parfois nous relâcher Seigneur mon Dieu, mais tu nous montres au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'il faut persévérer. Et nous voulons le prendre à cœur parce que nous voulons voir ta gloire en ce lieu au milieu de nous. Nous voulons voir des baptêmes dans le Saint-Esprit. Nous voulons voir Seigneur mon Dieu ta main agissante. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu viennes au milieu de nous, que Seigneur mon Dieu, nous puissions avoir ces percées, ces miracles et ces prodiges, Seigneur Jésus. Alors nous voulons oublier nos limitations, nous voulons oublier le quand dira-t-on, nous voulons oublier notre timidité, mais nous voulons prendre notre place pour saisir la victoire en Jésus-Christ. Parce que nous osons élever notre voix, nous osons prier, nous osons porter les sujets prières au trône de ta grâce. Nous voulons exercer, Seigneur mon Dieu, notre foi, nous voulons la manifester. Seigneur Jésus, conduis ces moments, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.